nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, dans cette émission Focus dédiée à Mauriac et Racine, vous écoutez l'intervention d'André Le Gall, biographe et écrivain, qui nous parle des deux auteurs très inspirés l'un de l'autre.
J'ai rencontré François Mauriac et Jean Racine à peu près dans les mêmes années. Racine faisait partie du programme de la classe de seconde. Pour Mauriac comme pour Racine, ce fut cette sorte de découverte adolescente dont le souvenir demeure indéfiniment. Les mots étaient une symphonie qui emportait l'âme sur les cimes de la poésie. Les vers de Phèdre retentissaient en moi. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière ? Savoir en quoi une poussière pouvait être noble n'était pas mon affaire. La mélodie racinienne était la source d'une émotion qui balayait les questions inutiles. Gravée dans les profondeurs de la mémoire, elle entrait en résonance avec la phrase mauriacienne reçue à peu près dans le même temps. Le mystère Frontenac échappait à la destruction, car il était un rayon de l'éternel amour réfracté à travers une race. L'impossible union des époux, des frères et des fils serait consommé avant qu'il fût longtemps, et les derniers pins de Bouridèse verraient passer, non plus à leurs pieds, dans l'allée qui va au Gros Chêne, mais très haut et très loin, au-dessus des cimes, le groupe éternellement serré de la mère et de ses cinq enfants. Fin de citation. Que les mots eussent le pouvoir de faire naître ces instants de furtive délectation au sein de l'éphémère, c'était la découverte du lycéen émerveillé, et que le don du poète fût d'exercer sur la langue ce souverain empire, grâce auquel il lui était donné de vivre ces instants, c'est ce que l'adolescent de ce temps-là n'oublierait pas. Les décennies ont passé, l'émotion demeure. Aussi, lorsqu'il m'a été demandé de dire ce qu'avait été au long des années la relation de François Mauriac avec Jean Racine, c'est avec un bonheur certain que j'ai accepté. Je précise les limites de l'exercice. Il ne s'agit pas de scruter dans l'œuvre romanesque et théâtrale de Mauriac l'influence littéraire et morale de Racine. L'entreprise dépasserait les limites de cette conférence. Non, il s'agit seulement de repérer, dans le bloc-notes et dans les œuvres autobiographiques, les références raciniennes qui viennent spontanément sous la plume de François Mauriac. Mais, bien entendu, le lieu où s'opère de manière privilégiée la rencontre de Mauriac et de Racine, c'est la vie de Jean Racine qui, notons-le, se situe assez tôt dans le temps, 1928, c'est-à-dire 2 à 4 décennies avant le bloc-notes et les mémoires intérieures. Le vendredi 5 décembre 1969, François Mauriac écrit « Je pourrais citer à l'infini des vers de Racine. Heureuse mémoire, j'ai écrit une biographie de Racine et il n'y a pas divers de lui que je puisse transcrire exactement sans me reporter au texte. Cette infirmité n'empêche pas que le rythme de la musique racinienne n'ait formé le fond de mon sentiment poétique. C'est bien la preuve que les biographes de l'an 2000, auxquels François Mauriac fait allusion dans les premières pages de sa vie de Jean Racine, restent fidèles aux émotions qui travaillaient leurs prédécesseurs, parmi lesquels François Mauriac lui-même. Car Mauriac, tant pour Racine que pour Pascal, aura été un véritable biographe, exact pour l'essentiel, à jour des connaissances de son temps. Quelques erreurs, quelques approximations que l'érudition postérieure a mises en lumière ne justifient pas la condescendance que quelques plumes vertueusement érudites se sont par la suite autorisées. Non, pour écrire sur Racine et sur Pascal, François Mauriac s'est visiblement imposé de prendre connaissance de l'information disponible au moment où il écrivait, mais sans la développer. Savant, mais dans l'implicite, François Mauriac n'a pas toujours évité le glissement de signification auquel expose l'art du raccourci. Il arrive aussi que les facilités de l'oxymore entraîne sa plume au-delà de ce que l'érudition permet de confirmer. Auteur d'une vie de son père, Louis Racine se trouve hâtivement qualifié de « pieux ivrogne » par Mauriac, qui reprend ici une tradition que François Bluch, spécialiste éminent du siècle de Louis XIV, tient pour « absurde et obsolète » dans sa préface à l'édition de cette vie, publiée en 1999 aux Belles Lettres. Un élément singulier du profil racinien n'échappe pas à Mauriac. C'est que le jeune amant de la Duparc fut aussi prieur de Sainte-Madeleine de l'Épinay. Et lorsqu'il fut dépouillé de ce bénéfice à la suite du procès dont il tira l'inspiration des plaideurs, il devint prieur de Saint-Jacques de la Ferté. Fin de citation. Ici encore, le raccourci, s'il saisit l'essentiel, va un peu vite. D'abord, il faut sans doute lire Sainte Pétronie et non Sainte Madeleine de l'Épinay. En outre, les pièces disponibles mentionnent non pas un, mais deux autres prieurés, Saint-Jacques de la Ferté et Saint-Nicolas de Choisel, dont Racine aurait été simultanément ou successivement le titulaire au long de la période 1670-1674, qui couvre une bonne partie du temps où Racine est l'amant de Marie Desmar, épouse du sieur de Champmélé. Savoir si c'est un procès perdu, ayant pour objet un bénéfice ecclésiastique qui est à l'origine des plaideurs, est une question qui reste en débat, même si Louis Racine présente effectivement l'affaire sous ce jour. Lapidaire, le style de François Mauriac tente à enfouir des nuances que les études raciniennes se plaisent à explorer. Mais il excelle à mettre en pleine lumière ce qui, pour lui, Mauriac, est véritablement le plus important, ici le plus troublant. Le brillant jeune homme qui, dans les années 1660, monte à l'assaut du monde par la voie du théâtre et qui, parallèlement, selon une hypothèse que Mauriac lui-même tendrait à confirmer, courtise activement les théâtreuses et autres beautés disponibles sur la place, ce brillant sujet est aussi un clerc qui pourrait bien avoir reçu la tonsure et qui, selon ce qu'en dit Furtière dans son dictionnaire, avait l'obligation, étant prieur, de lire le bréviaire. François Mauriac tombe ici en arrêt devant son personnage. « Toute biographie, écrit-il dans les nouveaux mémoires intérieurs de 1965, doit passer par nous-mêmes et être notre propre histoire. » Fin de citation. Découvrir chez les morts le mot de sa propre énigme, Mauriac ne dissimule pas ce qu'il entre de subjectivité dans son entreprise. Les décalages de situations et de mœurs, quand ils existent, n'en sont que plus perceptibles. Né dans un temps où les talents pouvaient s'investir dans les grades universitaires et les concours administratifs, la vénalité des charges ayant été abolie, François Mauriac, étant de surcroît un héritier, n'a pas eu à inclure dans sa propre histoire cette douteuse quête du bénéfice ecclésiastique qui a conduit Racine à Uzès à la fin de 1661. Sa familiarité avec les vers de Racine est telle que les références ne cessent d'affluer sous sa plume tout au long des décennies. Ce Racine dont les vers hantent sa mémoire, comment le voit-il? Bien entendu, il n'oublie pas de citer la lettre du 11 novembre 1661 que Racine, à peine arrivé à Uzès, adresse à La Fontaine. Le jeune Racine est alors auprès de l'oncle Sconin, vicaire général. Sa correspondance abonde en considérations diverses sur les beautés locales. Mais, écrit-il, on l'a prévenu contre les entraînements. On m'a dit « soyez aveugle ». Si je ne le puis être tout à fait, il faut du moins que je sois muet. Car, voyez-vous, écrit Racine, il faut être régulier avec les réguliers, comme j'ai été loup avec vous et avec les autres loups, vos compères. » Fin de citation. Trois décennies plus tard, l'image revient dans les mémoires intérieures. Il y a du fauve en lui. C'est une citation de Nietzsche et elle s'applique au XVIIe siècle. Mais avant de la rapporter, Mauriac dit de ce siècle qu'il est celui de Racine, mais aussi de la Brinvilliers. Bête de proie, mais solitaire et abandonnée, c'est ainsi que se reflète Racine dans le miroir mauriacien. C'est ainsi que Mauriac le voit jusque dans la postérité. Il demeure, écrit-il, dans les mémoires intérieures, mais il encombre, parce qu'il n'existe plus pour lui d'interprète ni de public. J'aime que Racine reste ainsi solitaire et abandonné, lui le plus grand peintre, à mon sens, de la solitude humaine, non celle de l'amour, mais celle du désir. » Fin de citation. L'âpre lucidité mauriacienne saisit Racine sur la fin de sa vie, alors que le poète craint d'avoir perdu la faveur de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Le malheur d'avoir déplu à Louis XIV lui coûta plus de larmes que la honte de ses souillures, écrit Mauriac. Au vrai, en dépit de sa sincère pénitence, Racine meurt en pleine passion, il meurt de sa passion. Fin de citation. Quand il meurt le 21 avril 1699, Racine se croit-il effectivement en état de disgrâce comme un an plus tôt, lorsqu'il écrit à Madame de Maintenon cette lettre du 4 mars 1698 dont il n'est pas sûr qu'elle ait été envoyée à sa destinataire, mais que Racine à coup sûr a écrite, et où le courtisan se livre à nous en plein désarroi. La réponse à la question est incertaine, comme est incertaine la liaison qu'établit Louis Racine entre le mal qui emporte son père et la défaveur imaginaire ou réelle encourue par lui l'année précédant sa mort. Conversion de Racine en 1677, oui, victoire sur les passions, sur la plus violente d'entre elles, celle du théâtre. Grandi dans Port-Royal, où l'on enseignait les tragiques grecques, mais où le théâtre, ses pompes et ses œuvres tenaient lieu d'images terrestres de la perdition infernale, Racine n'a pu exercer son talent, ce qu'il avait de plus cher, nous dit Louis Racine, qu'en s'affrontant à ses maîtres et sur quel ton. La lettre à l'auteur des hérésies imaginaires et des deux visionnaires, que Racine lâche sous le couvert de l'anonymat au début du mois de janvier 1666, pulvérise les missives que Nicole s'efforçait de composer sur le modèle des provinciales pour défendre le pauvre troupeau persécuté dont Port-Royal était le centre de vie ou de ralliement. C'est que le fringant auteur, qui vient de triompher avec Alexandre à la fin de 1665, a lu dans la prose de Nicole quelques lignes qui, loin de n'être que le prétexte, ainsi qu'on l'a dit, de sa colère, lui ont fait l'effet d'un fer rouge. François Mauriac cite, dans la vie de Racine, le passage de Nicole qui constitue le casus belli. « Un faiseur de romans et un poète de théâtre est un empoisonneur public, non des corps, mais des âmes des fidèles. » Fin de citation. Que Racine, heureux auteur de cet Alexandre où le jeune Louis XIV s'est reconnu et dont il a accepté d'être le dédicataire, ait saisi l'occasion que lui fournissait Nicole de se démarquer publiquement de ses anciens maîtres poursuivis par la vindicte royale, il se peut. Mais cette sorte de calcul, dont toute une tradition juge Racine tout à fait capable, n'est pas nécessaire pour expliquer la ravageuse allégresse qui emporte sa lettre de janvier 1666. N'importe quel faiseur de romans et poète de théâtre, et François Mauriac tout le premier, ne peut qu'être soulevé par une tempête intérieure à la lecture de l'anathème de Nicole. À l'automne 1667, lors de la publication d'Attila, les solitaires de Port-Royal purent lire une cinglante réplique de Corneille qui mettait en doute leur titre à délivrer ces sortes de condamnations alors qu'eux-mêmes étaient en délicatesse avec le magistère. La diatribe de Nicole ne laisse pas François Mauriac indifférent. Il y revient à plusieurs reprises dans sa vie de Jean Racine. Lorsque Racine sera au temps de Phèdre, dans les années 1675-1676, Mauriac notera « Il n'a jamais cessé de croire à ce que Nicole, un jour, lui mit en tête. Il est un empoisonneur. Il a perdu des armes. Il en perdra tant que ses ouvrages seront représentés au théâtre. » Fin de citation. Le poison dans la vie de Racine n'aura pas été que moral. Mauriac nous montre le poète de théâtre la mémoire occupée par ce qui s'est passé dans ces jours de décembre 1668 où Marquise Thérèse du Parc agonisait. Certes, il ne reprend pas à son compte l'accusation d'empoisonnement que Lavoisin devait porter contre Racine le 21 novembre 1679. Mais Mauriac ajoute « Si nous ne sommes pas toujours coupables de ce dont le monde nous accuse, d'autres fautes inconnues du monde demeurent un secret entre Dieu et nous. » Fin de citation. Racine, amant de Marquise Thérèse du Parc, a rencontré Lavoisin et quelques autres créatures de cette espèce. À tout le moins, il a rencontré des personnes qui les fréquentaient. Si depuis lors il a rompu avec ce milieu, peut-être le milieu ne l'a-t-il pas lâché aussi facilement qu'il l'eût souhaité. La gloire conquise reste l'angoisse, et d'abord cette angoisse du salut dont Phèdre est le témoignage fulgurant. « Il y a de la terreur dans Phèdre », écrit Mauriac. « Le dieu de Saint-Cyran pèse effroyablement sur Phèdre », dit-il encore. Empoisonneur public, le thème revient à nouveau lorsque le biographe rapporte les exhortations de Jean Racine à son fils Jean-Baptiste en 1695 au sujet du théâtre. Mauriac écrit « Cette terreur du théâtre dénonce l'emprise du jansénisme sur Racine vieillissant ». Fin de citation. Longtemps, Racine s'est débattu contre l'accusation de Nicole. À présent, il plaide coupable. « Le poison !» s'exclame Mauriac, scrutant la conscience du poète. « Qui sait, cite Hermione, si Roxane, n'ont pas incité des amoureuses vivantes à monter l'escalier de Lavoisin ?» Fin de citation. Et soudain, cet aveu d'inquiétude fraternelle, cette hantise des âmes perdues par lui et de celles qui se perdrait lorsqu'il ne serait plus du monde, possède Racine comme tout auteur catholique. Fin de citation. Question à se tourmenter, en effet. Disons que, conscience troublée et qui vivent de leurs troubles, les poètes de théâtre et les faiseurs de romans peuvent seulement invoquer le talent reçu et que l'inspiration du poète n'est que le frémissement, certes affaibli, mais cependant tumultueux, du souffle divin dont la Genèse dit qu'il agitait la surface des eaux avant même que la lumière fût. 1677, conversion de Racine. Ultérieurement, retour à Port-Royal. Mais comment expliquer l'âpre malignité de l'auteur de la lettre de janvier 1666 à l'encontre de ses anciens maîtres ? C'est qu'il est, nous dit Mauriac, dans le temps où un créateur prend conscience de ses dons redoutables et ne se reconnaît plus de devoir qu'envers son œuvre. Rien au monde n'importe autant que ce qu'il crée. » Fin de citation. Le Racine de ce ton-là, Mauriac le voit dénué de toute pitié. Tout adversaire de ses tragédies devient son ennemi déclaré et il l'assomme avec les ressources d'un esprit dont la malice touche au féroce. C'est qu'en ce milieu des années 1660, Racine vit selon François Mauriac, son jour de révolte contre ses maîtres. Les admonestations et exhortations qui lui sont adressées n'ébranleront pas la détermination de l'enfant de Port-Royal, résolu, quoi qu'il advienne, à délivrer les personnages et les vers que son génie lui inspire. La lettre de janvier 1666, comme celle qui la suivra en mai et qui ne sera jamais publiée du vivant de son auteur, fait feu de tout bois. Là-dessus, François Mauriac mêle sa voix à celle de Jean Racine, non sans marquer sa différence. « Le tort de Racine en ce débat, écrit Mauriac, est qu'ayant dans le fond raison, il se soit beaucoup moins soucié de le démontrer que de porter à l'adversaire des coups sanglants. Aujourd'hui, où nous ne cessons d'être en butte aux mêmes attaques dont il s'exaspérait, nous aimerions à invoquer son témoignage. Mais ces railleries ne servent à rien qu'à nous confirmer ce qui est hors de cause, que M. Racine avait bien de l'esprit et du plus méchant. Ce peintre de l'homme aurait pu faire entendre à des jansénistes que Pascal n'a rien tenté d'autre dans son apologie que de prouver la vérité de la religion en portant à la lumière la conformité de ses mystères avec ceux de notre cœur, et qu'un romancier et qu'un dramaturge peuvent y atteindre comme lui et même à leur insu. » Fin de citation. Nous, aux prises avec certaines censures morales, François Mauriac profite de celle de Port-Royal contre Racine pour plaider la cause du faiseur de romans et du poète de théâtre catholique. mais sans reprendre à son compte les sarcasmes vengeurs du jeune Racine. Ayant eu à comparaître dans le même prétoire, Mauriac se trouve lié pour la vie à Racine. Ainsi, les polémiques anti-raciniennes des années 50 et 60 le trouvent-elles en éveil, toujours prêt à défendre l'enfant de Port-Royal. Il s'interroge dans les nouveaux mémoires intérieurs. Pourquoi ne puis-je souffrir le ton de certains commentaires ? L'attentat contre Racine lui suggère un vocabulaire à connotation religieuse, un certain romantisme qui est la chose du monde la plus commune, a toujours blasphémé et blasphémera toujours cette beauté simple et vraie qu'un seul homme chez nous élève à la fois d'Euripide et de Saint-Cyran à atteinte, et puis ce fut fini. Le silence de Racine après Phèdre n'est pas le silence d'un auteur, c'est la mort du genre. Fin de citation. Vieillissant, François Mauriac livre aux bloc-notes et aux mémoires intérieures les nostalgies que lui inspire le souvenir des interprétations théâtrales d'autrefois. Le maquillage que s'applique à présent Marie-Belle et qui impose un masque tragique et presque funèbre à la jeune reine heureuse et frémissante du premier acte le renvoie 40 ans en arrière. « Oui, je me souviens, écrit-il le 21 janvier 1955, et du charme, et de la grâce, et de l'audace, d'introduire tout à coup un accent de tendre ironie quand elle disait « Si Titus est jaloux, Titus est amoureux, cela ne sera jamais égalé. » Fin de citation. Elle, c'est Julia Barthé, la même qui récita à la Sorbonne en 1911 ou 1910 des vers de « L'adieu à l'adolescence ». J'écoute encore en moi cette voix merveilleuse. Ma mère était venue de Bordeaux pour entendre mes vers dits par Barthé. Fin de citation. Racine, Bérénice, Julia Barthé, lisant les mots qu'il avait écrits en présence de sa mère, ici se fondent ensemble les émotions filiales, personnelles, esthétiques et théâtrales pour former l'un de ces souvenirs lumineux avec lesquels vivent les hommes et les femmes et qui les consolent de vieillir. Le 13 janvier 1961, le bloc-notes y revient. Plus j'assiste à ces reprises et plus je me persuade que la tragédie de Racine exige une certaine voix. Les mémoires intérieures le montrent insatisfait, déçu à chaque représentation, irrité, exaspéré. On ne sait plus faire parler ces divinités endormies que sont les héroïnes de Racine. Un autre souvenir, Sarah Bernard, à Bordeaux, en 1903 ou 1904, interprétant une Phèdre qui n'était pas, je cite, « une échappée de la salpêtrière, un sujet pour Charcot, mais la créature sur laquelle pèse la griffe du dieu de Jansénius, cette griffe que Baudelaire dit effroyable ». Fin de citation. Avec Racine s'impose comme une thématique obligée la thématique du silence du poète. Racine, Rimbaud. Mauriac, dont le dernier bloc-notes est du 15 août 1970 et qui est mort le 1er septembre suivant, écrit le 30 août 1954. Le silence de Racine après Phèdre. Il n'y a rien là de déconcertant. Et c'est à mes yeux le type du faux problème. Et pourquoi un écrivain aurait-il, jusqu'à la fin de sa vie, quelque chose à dire ? Pourquoi, en effet ? Sauf que lui, François Mauriac, écrit, deux semaines avant de mourir, une page riche non seulement de souvenirs, mais aussi de détails connus de lui sur la mort de Toulouse-Lautrec et qui lui permettent un jugement très critique sur la valeur historique du film Moulin Rouge qu'il vient de voir à la télévision. Et la dernière phrase du dernier bloc-notes de François Mauriac est « Tel est l'amour de Dieu pour nous, qu'il est bien capable d'avoir fait en sorte que bonne maman et maman auront une vue fulgurante des choses qu'elles ont crues quand elles étaient sur la terre. » Fin de citation. L'ultime parole était pour célébrer le mystère Frontenac auquel l'enfant Mauriac était resté fidèle au long des décennies. Il n'avait pas abandonné la plume, elle allait lui tomber des mains. Cependant, quatre décennies auparavant, il écrivait dans la vie de Racine, un auteur a souvent conscience d'être débarrassé de tout ce qu'il avait à dire. Il est souvent le premier à se sentir fini, mais il faut vivre et le métier survit au talent. Fin de citation. Disons-le, François Mauriac aura été assez heureux pour que, chez lui, le métier survive au temps sans que le talent l'abandonne. Mais pour Racine, il voit bien qu'au lendemain de Phèdre, la carte du théâtre ne vaut plus rien. En Racine, l'artiste pressent que le temps du chef-d'œuvre annuel dont parle Peggy est fini et qu'il n'ira pas plus haut et qu'il lui faut changer de registre. Alors l'historiographie royale, pourquoi pas ? D'autant qu'il n'y a pas que le roi, il y a Dieu. « Si une source s'épuise, écrit Mauriac, peut-être la poésie dramatique à laquelle Racine buvait à longs traits, la religion du moins ne semble jamais tarie. Il en restera toujours cela, une espérance. » Fin de citation. Une espérance, c'est-à-dire l'essentiel. Lucide sur le poète de théâtre, Mauriac concède « Tout peut être concerté dans la conduite d'un Racine. » Fin de citation. L'abandon du théâtre pour une fonction d'historiographe, la rupture avec Marie d'Aymar de Champmélé et le mariage avec Catherine de Romanet, la familiarité avec les appartements de Versailles et les camps militaires au lieu de la fréquentation des coulisses de l'hôtel de Bourgogne, cette reconversion sociale réussie n'empêche pas qu'il n'y ait eu de la part de Racine conversion, non point sous la forme d'une ascèse monacale, pour laquelle son directeur de conscience avait prudemment jugé qu'il n'était pas fait, mais conversion de vie, engagement dans un état, celui du mariage, dans une profession, celle d'historiographe du roi, qui, sans être aucunement un renoncement au monde, lui permettait de vivre dans le monde sans offenser quotidiennement les normes de la morale canonique. L'art de Racine, d'accommoder le temporel avec le spirituel, n'a pas échappé à Mauriac. Il n'en tire cependant pas cette accusation de tartufferie que les professionnels de la suspicion n'auront cessé de jeter à la face du poète de théâtre au long des siècles. Les circonstances les plus diverses ont concouru pour que le Racine de 1677 s'arrache au sable mouvant où il était au bord de s'enliser. Que ces circonstances aient été avantageuses pour lui ne signifie pas que sa sincérité soit douteuse. Tout autant que le démon de Midi existe l'ange de Midi, écrit François Mauriac, qui rappelle la conviction de Pascal. Pascal disait des événements qu'ils sont des maîtres que Dieu donne de sa main. Ce qui, en 1928, donne à Mauriac le sentiment de sa proximité avec Racine, se trahit dans cette notation. Jean Racine, le premier chez nous, osa regarder en face les passions de l'amour. Le premier, il dépouille l'amour de ses oripeaux. Fin de citation. Les mémoires intérieures viennent préciser les choses. Racine, le plus grand peintre, à mon sens, de la solitude humaine, non celle de l'amour, mais celle du désir. Le désir, voilà son royaume. C'est l'exigence d'une fin qui tend à l'assouvissement et qui cherche l'issue par le crime. Fin de citation. Dès l'adolescence, le jeune Mauriac avait reçu en héritage toute la poésie racinienne dans ce collège de Grand-Lebrun où, nourri comme Éliassin dans le temple, aussi ignorant que lui des choses du sexe, il s'est laissé investir par une créature terrible, une seule créature dont le nom change d'une tragédie à l'autre, c'est dans Phèdre que cette créature prend conscience de son étrangeté inguérissable. Fin de citation. La continuité rigoureuse d'une passion unique se communiquant d'une héroïne à l'autre, voilà ce qui appartient à Racine, la conscience aiguë de cette profonde plaie de la nature, de cette convoitise qui, selon Bossuet, lie l'âme au corps par des liens si tendres et si violents. La nature, l'instinct, l'animalité. C'est ce que la science racinienne des mots enveloppe dans une musique qui sublime la passion sans la justifier, d'où le tragique. Seul barrage à la passion dans cet univers, une autre passion, celle du pouvoir, qui dresse Attali contre Joad, Agrippine contre Néron, mais aussi Hermione contre Andromaque, Roxane contre Attalide, la rivalité amoureuse, se doublant ici de la volonté d'écraser la rivale par les moyens que donne la puissance politique. Phèdre est par excellence la plaque sur laquelle se projette François Mauriac tout au long des décennies. Phèdre, c'est d'abord l'image d'une divinité que Mauriac connaît bien et à laquelle il a le sentiment d'avoir échappé, image hérétique dont l'aura protégé l'enseignement reçu dans les profondeurs de l'enfance, dont il aura guetté les manifestations redoutables sous les plumes des solitaires de Port-Royal. Dans la vie de Racine, il met en scène le jeune Racine désespéré par l'hérésie janséniste. Tel il voit le Racine des années 1660, très résolu à employer son temps à se faire aimer et à conquérir la gloire, et non, nous dit-il, à ratiociner sur des mystères dont la foi nous enseigne qu'ils sont impénétrables à la raison. Fin de citation. Sur son rapport personnel, avec cette image divine, François Mauriac ne varie pas. À la fin des années 20, il écrit « Phèdre ignore le Dieu qui nous aime d'un amour infini. Elle est de ces misérables que les maîtres du petit Racine frustrent sereinement du bénéfice de la rédemption. » Fin de citation. L'intuition mauriacienne repère d'emblée chez Racine cette liaison entre Port-Royal et les tragiques grecs que tant de publications savantes se sont appliquées à brouiller et qui est cependant évidente si on la saisit de l'intérieur. Pour François Mauriac, leur divinité, celle des maîtres du petit Racine, rejoignait le fatum, un destin qui ne serait pas aveugle, terriblement attentif au contraire à la perte des âmes réprouvées dès avant leur naissance. Fin de citation. Il y a Phèdre, mais il y a aussi Attali. Or, observe Mauriac, si la fille de Minos et de Pasiphae tombe à genoux, prononçant cette parole inouïe dans la tragédie classique « Pardonne », la fille d'Akab et de Jézabel se redresse, fait front, brave le dieu des Juifs sous le couteau même qui l'égorge. Fin de citation. Elle devine ce dieu dont elle est la victime, éternel ennemi des suprêmes puissances, s'écrie-t-elle, apostrophant Joad. Elle parle au nom de César, au nom de tous les Césars, détenteurs d'un pouvoir que les forces de l'esprit, du sein de leur impuissance, ne cessent d'interpeller. Par-delà Joad, elle s'adresse au dieu du temple, à ce dieu avec qui Antigone a partie liée. Vaincue, Attali, dans l'éternité, oui, mais dans l'histoire, elle prévoit qu'elle aura sa revanche. Cet Héliacin dont Joad prépare si diligemment la royauté, y voyant le dessein même de Dieu, Attali pressent qu'il sera un jour le roi Joas, dont les Écritures disent qu'il se laissera séduire par l'idolâtrie et que, sous son règne, le prophète Zacharie, fils de Joad, sera lapidé. Aussi, les invectives impuissantes de la reine Attali sont-elles des invectives triomphales. Et François Mauriac tient qu'en ces invectives, une part de Racine se délivre, lui qui, au temps où il compose son poème sacré, ouvrez les guillemets, a choisi de se soumettre, de servir en tremblant. Il ne sait pas qu'une partie de lui-même se satisfait de ses blasphèmes et se grise de cette audace désespérée. Fin de citation. Alors, ambiguïté inéluctable du faiseur de romans, du poète de théâtre, complicité avec les pires de ces personnages ? Question décidément à se tourmenter. Clarifions et précisons un peu. Le monde étant ce qu'il est, et les créatures ce qu'elles sont, il faut admettre une bonne fois pour toutes qu'entre un auteur et ses personnages, il y a bien continuité d'énergie, mais non pas confusion d'identité. S'il est du métier de l'écrivain de se laisser traverser par ses personnages, il est de sa responsabilité de choisir ses alliances. La crédibilité des alliances est à la mesure de la lucidité avec laquelle il pratique le métier. C'est parce que Racine a pratiqué le métier sans s'interdire de scruter, citons ici la lettre aux artistes de Jean-Paul II, sans s'interdire donc de scruter, je cite, « les plus obscures profondeurs de l'âme ou les plus bouleversants aspects du mal », fin de citation, c'est pour cette raison que François Mauriac peut écrire dans les Mémoires intérieures « Il est certain que la tragédie racinienne appelle l'incarnation. Son horreur exige un rédempteur. » Ce que l'enseignement reçu au cours de l'adolescence aura apporté à François Mauriac, c'est d'abord une protection contre cette image de la divinité qui affole Phèdre et qui n'est pas sans rapport avec le dieu de Jansénius. L'œil fixé sur Port-Royal, attentif aux leçons des solitaires, habile autant qu'il l'était à démêler les ambiguïtés du cœur humain, Mauriac a pu par là accréditer quelques raccourcis critiques où le qualificatif de janséniste lui est appliqué un peu facilement. Mais non, janséniste il ne l'était pas. Certes, sur le débat qui oppose Pascal aux jésuites, il écrit « Par-delà les jésuites, ce que Pascal attaque, c'est le christianisme politique. C'est le détournement de la vérité religieuse et son utilisation pour dominer les âmes. » Fin de citation. Sa sympathie morale va à Pascal, mais elle ne l'empêche pas au plan doctrinal d'écrire « Les jésuites avaient raison contre Pascal, c'est une bénédiction qui l'est emportée contre lui. » Cette bénédiction, Mauriac en a fait l'expérience personnelle dans son collège au temps de l'adolescence. C'est la confidence qu'il nous livre dans ses mémoires intérieures. Le poison janséniste, caché dans les veines de Phèdre, j'admire que cet enfant auquel je songe y ait résisté malgré le prestige de Port-Royal où déjà Pascal l'avait introduit. Sagesse de l'Église, vertu de la vie sacramentelle entretenue en nous dans ce collège, comme je leur suis reconnaissant de m'avoir dès cet âge-là dispensé l'antidote. Non que j'ai échappé tout à fait, du moins mon œil savait-il déjà circonscrire l'hérésie dans Phèdre. » Fin de citation. Lorsque François Mauriac dit en avoir été protégé, il sait de quoi et de qui il a été protégé. Et c'est de sa part une confidence majeure. Mise en garde dès son plus jeune âge contre l'image divine qui se dessine en creux dans les 5 propositions condamnées le 31 mai 1653 par le magistère romain, François Mauriac aura manifesté sa vie durant qu'il en avait une connaissance intime, comme s'il se sentait exposé aux assauts silencieux du désespoir sacré qui gronde dans ses propositions. Cette image divine, est-ce la seule que connaisse Racine ? Le raccourci que l'on trouve sous la plume de Mauriac, le dieu de Jansénius, le seul que Racine connut, est-il fondé ? Ce n'est pas le lieu ici de reprendre l'abyssal débat sur le jansénisme, son contenu doctrinal, sa réalité historique, fantôme d'hérésie, soutient Antoine Arnaud. Et d'abord, quelle est la légitimité d'expression telle que « le dieu de Saint-Cyran », le dieu de Jansénius. Sans doute faut-il admettre que par ses formulations, François Mauriac implicitement désigne ici l'image divine à l'œuvre dans les 5 propositions condamnées, et non la représentation que Saint-Cyran, Jansénius et les maîtres du Petit Racine se font effectivement et personnellement du dieu qu'ils adorent, tant il est évident que ces représentations appartiennent en propre à chacun d'entre eux, et qu'il serait particulièrement hasardeux d'extrapoler à cet égard. Selon toute vraisemblance, les intéressés n'auraient pas manqué de récuser avec véhémence pareil amalgame qui a les vertus du raccourci, mais qui en a aussi les inconvénients. Et Racine. Que Phèdre soit aux prises avec cette même image, repeinte aux couleurs du fatum antique, ne permet pas de se représenter la divinité qu'invoque Racine dans son fort intérieur. Rien de moins éclairant à cet égard que la correspondance du prosateur des années 1680 et 1690. Racine n'est pas l'homme des exposés théologiques, mais il est le poète des Cantiques spirituels, 1694, où l'on peut lire « Un jour Dieu cessera d'inspirer des oracles, le don des langues, les miracles, la science aura son déclin. L'amour, la charité divine, éternelle en son origine, ne connaîtra jamais de fin. » Une chose est sûre, c'est que le Racine des années 1690, conseiller et défenseur de Port-Royal, explose de dénégation et d'amertume lorsqu'il se croit accusé de jansénisme. François Mauriac excelle à débusquer l'extrême savoir-faire social de Racine, avant et après Phèdre. L'abandon du théâtre en 1677 est intervenu à un moment où Racine pouvait penser que son œuvre était faite. Sa conversion avait les allures d'une régularisation. Le mariage avec Catherine de Romanée n'aura peut-être pas été moins ardent que la liaison un peu trop partagée avec Marie Desmar de Champmeslé. Par rapport au théâtre, l'historiographie, c'était la nomination au grade au-dessus, très au-dessus, ainsi qu'en témoignent les railleries dépitées de l'aristocratie, Bussy, Rabutin et Madame de Sévigné en tête. Chez Racine, écrit François Mauriac, la foi et l'ambition commandent souvent la même attitude. Il sait comment s'y prendre avec Dieu, croit-il pouvoir ajouter. Mais quand il rapporte le propos de Spanheim, représentant de l'électeur de Brandebourg en France, c'est pour le qualifier de calomniateur. L'intrigue de la dévotion domine chez lui, écrit l'Allemand, à propos de Racine. Non, Racine n'aura pas été un simulateur, un tartuffe, se revêtant par calcul du masque de la dévotion. Sa reconversion sociale aura été l'autre versant de sa conversion religieuse. Le procès qu'on aura cessé d'instruire contre lui à cet égard méconnaît ce que François Mauriac appelle le secret de Jean Racine, le secret d'avancer continuellement dans la vie spirituelle, d'y progresser. Fin de citation. « Secret perdu », écrit-il. Racine, courtisan du roi, marié à Catherine de Romanée, s'est mis en état d'approfondir sans cesse sa vie intérieure tout en éduquant ses enfants. Ce directeur de conscience, qui a su le dissuader de se retirer à la trappe et l'a persuadé de rester dans le monde pour s'y sanctifier, avait bien compris à qui il avait affaire. François Mauriac a été parfois rangé par l'érudition du XXe siècle parmi les biographes de Racine que l'on pouvait se dispenser de lire. Bien évidemment, le risque avec un biographe tel que Mauriac est que le biographe investisse abusivement son personnage. Pas sûr cependant que de toutes les vies de Racine, celle de François Mauriac soit la première que la postérité oubliera. Il se pourrait qu'avant elle, plusieurs autres passent à la trappe. Peut-être bien que, longtemps encore, il se rencontrera des esprits avides d'entrer dans l'intimité racinienne et qui trouveront dans ce bref ouvrage les éclairs de lumière que l'âpre pouvoir d'investigation du projecteur mauriacien jette au plus profond des obscurités de l'enfant de Port-Royal. Il se peut que, tant que durera la langue, nombreux soient les lecteurs qui s'accorderont le bonheur de fréquenter cette prose dont la musicalité, la précision, l'acuité donnent à entendre une voix singulière, ce qui est le propre d'un écrivain véritable. Mauriac, Racine, deux âmes, deux œuvres en résonance.
C'était une émission Focus dédiée à Mauriac et Racine dans laquelle vous avez écouté l'intervention d'André Le Gall, écrivain et biographe, sur ces deux auteurs très inspirés l'un de l'autre.